Ok, parfait. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Vasudevaya.
Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate Vasudevaya.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Om Namo
Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Allez, allez, bon. Alors, on est là, à la page 8, ligne 31. C'est là qu'on est censé commencer aujourd'hui. Virginie, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Hare Krishna. Mais il faut savoir que celui qui ne parvient pas à dépasser le niveau du Brahman, de la conception impersonnelle de la vérité absolue, risque de choir de sa position. Le Srimad Bhagavatam enseigne que celui qui parvient au stade du Brahman ne saurait posséder une intelligence parfaitement claire s'il ne s'élève au-delà et reste dépourvu de la connaissance de la personne suprême. Il encoura toujours le risque de choir de sa position s'il n'adopte le service de dévotion. Dans les textes védiques, il est dit Raso Veicha Rasam Hi Evayam Labdavanandi Bhavati. Celui qui parvient à connaître Krishna, Dieu, la personne suprême, source intarissable de plaisir, connaît en vérité une félicité spirituelle absolue. Taittiriya Upanishad 2.7.1. Le Seigneur suprême possède pleinement les six perfections spirituelles qu'il partage avec le dévot qui l'approche, lequel, comme le serviteur du roi, jouit pratiquement des mêmes avantages que son maître. Ainsi, la vie éternelle, mais aussi une joie immortelle et intarissable, s'attache au service de dévotion, lequel inclut la réalisation du Brahman, c'est-à-dire l'immortalité, l'éternité. Qui s'absorbe pleinement dans la pratique du service de dévotion possède déjà cette perfection. L'être vivant, bien que Brahman par nature, désire dominer l'énergie matérielle, ce qui cause sa chute. Par sa nature constitutive, l'être est au-dessus des trois gunas. Toutefois, dès qu'il est en contact avec la nature matérielle, il se prend dans les rets de la vertu, de la passion et de l'ignorance et cherche aussitôt à dominer le monde de la matière. Mais qu'il pratique le service dévotionnel en pleine conscience de Krishna et il transcendera automatiquement les gunas. Son désir illicite de devenir maître de la nature matérielle se dissipera. Il est donc essentiel de prendre part, en compagnie d'autres dévots, au service de dévotion, lequel comprend 9 aspects. Écouter les gloires du Seigneur, les chanter, s'en souvenir, etc. La fréquentation assidue des dévots et l'influence du maître spirituel effacent peu à peu le désir matériel de domination et nous permet de nous fixer dans la pratique du service d'amour sublime que l'on offre au Seigneur. Du 22e au 27e verset de notre chapitre, Krishna recommande cette pratique dont l'exécution est aisée. Il suffit en effet de servir constamment le Seigneur, de partager les reliefs sanctifiés de la nourriture offerte à la Murti, de sentir les fleurs offertes à ses pieds pareilles au lotus, de visiter les lieux saints où se déroulèrent ces divertissements transcendantaux, de lire les ouvrages dans lesquels sont décrites ces différentes activités et ces échanges d'amour avec ses dévots, et de toujours chanter ces saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, et d'observer les jours de jeûne commémorant ces apparitions et disparitions en ce monde, ainsi que celles de ses dévots. En se soumettant à de telles pratiques, on se détache entièrement de tout acte matériel. Celui qui peut ainsi pénétrer le Brahma Jyoti, ou les différents aspects du concept du Brahman, devient en qualité l'égal de Dieu, la personne suprême. En ce qui a trait aux dévots, ils réalisent l'existence du Brahman impersonnel du fait de connaître Krishna. Ils acceptent volontiers que Krishna en soit la source. Ils ne désirent pas s'y fondre car ils n'ont d'intérêt que pour le service de dévotion, lequel requiert le processus lui-même, un maître et son serviteur. Ce dernier lui procure une satisfaction incomparable à celle de se fondre dans le Brahma Jyoti, fût-ce des millions de fois au risque de faire fi de leur individualité personnelle. Un tel entendement est le fruit naturel d'une écoute assidue des propos d'un pur dévot du Seigneur Krishna.
Jai, Hare Krishna, merci beaucoup.
Oui.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Moi, je relis le dernier paragraphe que je viens de lire parce que en ce qui a trait aux dévots, ils réalisent l'existence du Brahman impersonnel du fait de connaître Krishna. Ils acceptent volontiers que Krishna en soit la source. Ils ne désirent pas s'y fondre car ils n'ont d'intérêt que pour le service de dévotion, lequel requiert le processus lui-même, un maître et son serviteur. Ce dernier leur procure une satisfaction incomparable à celle de se fondre dans le Brahma Jyoti, fût-ce des millions de fois au risque de faire fi de leur individualité personnelle. Un tel entendement est le fruit naturel d'une écoute assidue des propos d'un pur dévot du Seigneur Krishna.
Questions, commentaires?
Voilà, en fait, j'avais pas bien compris qu'en fait, c'est le service de dévotion qui procure une satisfaction qui est incomparable à celle d'aller se fondre dans le Brahma Jyoti, en fait. Et le fait de le relire, j'ai mieux compris le sens du paragraphe.
Oui, c'est en
Voilà, c'est
plein.
ça.
C'est
Voilà.
en plein ça, là.
Exact. Mais j'avais, à la première lecture, comme je me concentrais pour ne pas faire de faute, j'avais pas bien saisi le sens, en fait. Et je me suis dit que ça faisait pas de mal de le réécouter non plus.
Oui, c'est correct. C'est bien beau.
Voilà. Parce que je n'avais pas bien saisi que oui, effectivement, il refuse justement tout ce qui n'est pas du service de dévotion, les dévots, les purs dévots.
Alors ici, c'est dit, en ce qui a trait, on recommence encore le paragraphe, en ce qui a trait au dévot, il réalise l'existence du Brahman impersonnel du fait de connaître Krishna. Il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus que ça, parce que les dévots de Krishna ne sont pas intéressés de se fondre dans le Brahman Jyoti. Et ils savent, via les instructions, les enseignements d'un pur dévot, qu'est-ce que le Brahma Jyoti? Si je vous demande, si je vous pose la question, c'est qu'est-ce que le Brahma Jyoti? Qu'est-ce que vous allez répondre?
De la lumière de la planète du royaume spirituel qui émane de Vrindavan Goloka Goloka Vrindavan et
Oui.
ces rayons en fait c'est la manifestation impersonnelle de Sri Krishna.
Ouais, c'est pas tout à
J'essaie
fait.
de tirer par les cheveux peut-être.
Faut mettre le focus un peu plus près.
Vas-y.
C'est correct, oui.
Alors, Madame
Disons
Ananda, lance-toi.
que c'est comment dire? Une explication plus, si on peut dire ça comme ça, plus géographique ou astronomique,
Oui.
bon, c'est ça, dans les astres, là, ça c'est correct. Mais, ah, mais si, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et c'est assez inconcevable, merci. Le Brahma Jyoti, c'est quoi?
C'est pas comme le soleil puis sa lumière. Il y a la boule, le soleil, et ensuite son éclat. Alors il y a Krishna puis tout le rayonnement qui part de son corps comme le soleil là. C'est le
C'est le rayonnement du Deva du soleil, Vivashvan.
mais que, comme Krishna, c'est le soleil lui-même, je dirais.
C'est ça. Le point, c'est qu'il ne faut pas oublier Krishna. Alors, le Brahma Jyoti, c'est l'éclat. C'est la radiance du corps de Krishna. Comment il fait ça? Je ne le sais pas. Mais ce que les Écritures et les purs dévots nous disent, c'est l'éclat du Brahman suprême, c'est-à-dire de Krishna. Alors, voilà pour le Brahma Jyoti. Alors, les impersonnalistes et n'importe qui, disons, qui ne connaît pas Krishna, mais qui entendent parler de cette lumière, source de bonheur, et le Brahma Jyoti, comme, ce qui est intéressant, la Bhagavad Gita dit, on l'a lu dans le cours précédent, on le lit encore aujourd'hui, le verset, Krishna dit, je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel, et constitue le principe même du bonheur ultime. Ça, c'est important de saisir, disons, ce verset-là. Et je vous avoue franchement que après des années dans la conscience de Krishna, aujourd'hui, j'ai une lumière quant à ce verset-là, à savoir que Krishna, si je vous pose la question, qu'est-ce que Krishna veut dire quand il dit que le Brahman impersonnel constitue le principe même du bonheur ultime? Qu'est-ce qui est sous-entendu? On t'entend pas?
Ça peut pas être juste ça, le bonheur ultime, parce que Krishna, c'est le bonheur total. Alors, c'est parti de du bonheur, je veux dire seulement, mais Krishna, c'est le bonheur.
D'accord. Quoi d'autre? OK. Krishna dit, c'est la base, le principe même du bonheur ultime. Mais est-ce qu'il existe un bonheur qui n'est pas ultime? Parce que Krishna est spécifié, là. Ça, c'est la base du bonheur ultime. Ça veut dire qu'en quelque part, il y a un bonheur qui n'est pas ultime. Pourquoi Krishna dirait que c'est le principe même du bonheur ultime? Si c'est pas sous-entendu, et là, je sais, on tire par les cheveux un peu, oui, là. C'est pas évident, parce que c'est pas écrit.
Parce que peut-être que le bonheur relié aux trois gunas, donc à la nature matérielle, et ben, il est pas ultime, ce bonheur-là. Donc, il est fait tantôt de bonheur, de malheur, de, donc c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de fondamental. On est dans la nature matérielle, dans le monde où les choses sont changeantes, tandis que c'est la base, en fait. Je suis la base du Brahman impersonnel, lequel est immortel, impérissable, éternel et constitue le principe même du bonheur ultime. Donc c'est, en fait, c'est de prendre conscience des qualités que Krishna nous donne par notre nature, nous en tant qu'âme, parce que c'est ça, en fait, Sakshitananda.
Oui.
Alors, et donc c'est prendre conscience de cette véritable nature que nous sommes, nous, et non pas des corps matériels soumis à des bonheurs qui sont pas ultimes. Eh ben, c'est la base, en fait, de la connaissance, peut-être, c'est ça. Tant qu'on n'a pas pris cette conscience de cet état, de notre état véritable, on peut pas comprendre plus.
D'accord. C'est très bien dit. Mais disons, on peut préciser un petit peu plus. On peut continuer dans le sujet. Alors, Krishna dit, c'est le principe même du bonheur ultime, ce qui sous-entend que dans le monde matériel, il n'y en a pas de bonheur. C'est un bonheur illusoire. Alors, un dévot, et c'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident qu'un dévot, parce qu'un dévot, lui, qui est, on va le dire, là, néophyte, et je ne vise personne, qui n'a pas cette conscience-là, à savoir que dans le monde matériel, faut pas se raconter des histoires, là. C'est un monde où il n'y en a pas de bonheur. Mais si le dévot pense, il y a une certaine forme de bonheur qui est intéressante dans le monde matériel, là, la porte est ouverte pour, justement, être dans l'illusion. Alors, donnons un exemple, parce que ce que Krishna dit, quand c'est le principe même du bonheur ultime, Krishna fait une affirmation, à savoir, essayez pas de trouver le bonheur dans le monde matériel. C'est pas là que ça se passe. Et si vous voulez trouver un bonheur qui est digne d'être appelé un bonheur, ben, il faut qu'il soit dans le Brahma Jyoti, au minimum. Mais le Brahma Jyoti, il englobe tout. Tout est dans le Brahma Jyoti. Le monde matériel aussi au complet est dans le Brahma Jyoti. Dans le sens que, Prabhupada explique, c'est comme un nuage.
Qui recouvre.
C'est une petite portion. C'est dit que c'est seulement un quart de la création de Dieu. Et le reste, le monde spirituel avec les planètes Vaikuntha et Krishna Loka, ça c'est le trois quarts de l'énergie divine, l'énergie de Krishna. Alors, un dévot, il doit savoir au minimum que dans le monde matériel, c'est pas la place pour vraiment croire ou avoir foi que le bonheur existe dans le monde matériel. Le bonheur existe, c'est sûr qu'il existe, mais il est de nature temporaire. On ne dit pas qu'il est faux, mais de nature temporaire. Alors, la réalisation spirituelle, ça consiste à comprendre qu'on est une âme spirituelle, et en tant qu'âme spirituelle, on est, justement, par constitution, on est fait pour vivre dans l'éternité. Et en ce moment, notre éternité, elle est couverte, et notre connaissance aussi. Et la félicité, ben tout ça, c'est recouvert par un corps matériel, sujet à être contrôlé par les lois de la nature. Et le corps matériel aussi est sous l'influence des trois gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Alors, ce n'est pas... être sous l'emprise des trois gunas, ce n'est pas la plateforme où on peut vraiment jouir de notre vie, de notre existence spirituelle par nature. Ça se passe pas à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit, ben moi, ça va pas si mal que ça, comme par exemple un dévot. Je suis dans la vertu, je me regarde dans la vertu, ça va pas si mal que ça, et puis je suis content avec ça. Est-ce que c'est pas facile de penser comme ça? C'est sûrement facile, parce que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, le bonheur dans la vertu, si c'est dans la Bhagavad Gita, ça conditionne. Alors, Prabhupada donne l'exemple. L'âme conditionnée est comme un prisonnier. Alors, Prabhupada dit, il y a la prison, il y a mettons, des cellules, là. Non, pas des cellules, mais Prabhupada dit, il y a des prisonniers de première classe, prisonniers de deuxième classe et prisonniers de troisième classe. Alors, si quelqu'un est dans le camp, prisonnier de première classe, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il veut pas aller plus loin, il se contente de ça. Prabhupada l'explique ça dans ses livres, en quelque part. Mais Prabhupada dit, on doit progresser plus loin que ça. Alors, le plus loin que ça, ben, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Le verset qu'on lit aujourd'hui, ça parle du Brahman impersonnel. Et le monde spirituel, et là, on a lu ça aussi. Excusez-moi, là, je parle du Brahman, je fais un petit retour en arrière. Si quelqu'un se fond dans le Brahman impersonnel, quel est le problème?
Il perd son individualité.
Disons qu'en pratique, il ne peut pas la perdre. Mais c'est dit qu'il risque de la perdre. Mais ça, c'est pas si important que ça en ce qui me concerne.
Donc,
mais c'est quoi le problème de se fondre dans le Brahman impersonnel? Le problème à la base.
Il n'y a pas de service dans
le... Oui, il n'y a pas de service. Excellent. Mais vu qu'il n'y a pas de service, c'est quoi la conséquence?
C'est qu'on a tendance à tout centrer sur soi, en fait.
Mais ça, on le fait déjà, là. Ça fait des millions et des milliards d'existences qu'on le fait à tout moment de la journée et dans toutes sortes de vies. On pense qu'on est le centre. Et là, on parle d'une âme spirituelle qui est arrivée au Brahma Jyoti. Quel est le problème?
Mais il perd le but de la vie. Dans ce fond dedans, le but de la vie, c'est d'être serviteur du Seigneur, ou serviteur du serviteur du Seigneur. Mais si on se fond dedans, on sert qui?
D'accord. Mais justement, le « on sert qui » entre guillemets, là, et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui découle de ça? Qui amène au problème, justement, de se fondre dans le Brahma Jyoti? On l'a lu. On l'a lu aujourd'hui. En plein début. C'est qu'on ne peut pas rester dans cette position-là. Alors, l'impersonnaliste qui se fond dans le Brahman, ce qu'il veut,
le choix de sa position.
Il va tomber.
C'est ça.
C'est ça le problème. C'est quelqu'un peut... Et Krishna, lui, Krishna accommode tout le monde. Alors, quelqu'un qui veut se fondre dans sa radiance... Et comme Prabhupada dit, la spéculation philosophique, la plus haute réalisation de la spéculation philosophique, c'est quoi?
La plus haute spéculation philosophique.
La plus haute réalisation des chercheurs philosophiques, de la spéculation philosophique, le plus haut qu'ils peuvent aller, c'est quoi? Se fondre dans le Brahman. Se fondre dans le Brahma Jyoti. Ça, c'est le plus loin qu'ils peuvent aller. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Krishna ne permet, pratiquement parlant, à personne qui n'est pas dévot ou dévote de Krishna d'aller plus loin que le Brahman. C'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Krishna. Alors, Krishna ne laisse pas rentrer n'importe qui, là. Alors, Krishna, lui, ce qu'il veut et ce qu'il demande, c'est que quelqu'un devienne, en fait, une pure âme spirituelle, un pur dévot de Krishna. Et là, à ce moment-là, il peut pénétrer au-delà du Brahma Jyoti et rester là. Ça, c'est pour les dévots. C'est comme Prabhupada dit, le Srimad Bhagavatam, c'est pour qui le Srimad Bhagavatam? C'est pour les dévots. C'est pour les dévots. Et comme le Srimad Bhagavatam dit dès le début, premier chant, premier chapitre, verset numéro 2, Nirmat Saranam Satam, ce Srimad Bhagavatam s'adresse aux dévots dont le cœur est parfaitement pur. Nirmatsaranam. Matsara, ça veut dire l'envie. Mais nir, ça veut dire négation. Alors, nirmatsaranam satam. Satam veut dire c'est des dévots. Satam veut dire des dévots de Krishna. Alors, dont le cœur est parfaitement pur. Et ceci veut dire, pratiquement parlant, dont le cœur est complètement dépourvu d'envie à l'égard de Dieu, la personne suprême. Alors, un dévot de Krishna, par nature, comment il est le dévot de Krishna? Par nature.
Il est bon.
Il est bon, oui. Disons un petit peu plus focus, s'il vous plaît.
Beaucoup d'humilité.
Il est humble, oui.
Exactement.
Humilité.
C'est ça. Alors, le problème est comment on chute dans les raies de l'énergie matérielle. À cause de quoi? C'est aussi expliqué.
L'ego. Oui. L'ego, le je, le moi.
Oui, le je.
De la matière. Il veut dominer la matière.
Oui, ça c'est correct. Mais à cause de l'orgueil.
Voilà, l'orgueil.
L'orgueil. Alors, à cause de l'orgueil, tous les problèmes sont là. Et la lutte pour l'existence est appelée, dans la Bhagavad Gita, est appelée Karshati. Prakriti, comment ça se dit ça? En tout cas, dans la Bhagavad Gita, il y a un verset, là, et le mot est utilisé Karshati, ce qui veut dire une lutte ardue avec la nature matérielle qui inclut une lutte avec les sens, lesquels incluent le mental. Ça, c'est dans la Bhagavad Gita. Alors, il faut vraiment écouter la Bhagavad Gita souvent, souvent, souvent pour saisir les subtilités de la Bhagavad Gita. Là, comme quand on prêche à des invités au temple ou même à des nouveaux dévots, ben le programme est le même pour tout le monde. Dans le sens qu'il y a des classes Bhagavad Gita, comme le dimanche, une classe, que c'est supposé d'être une classe sur la Bhagavad Gita. Alors, les invités vont venir. Il y a toujours des invités pour la fête du dimanche. Puis ils vont écouter la classe. Puis le dévot qui parle, ben soit il prend un verset direct de la Bhagavad Gita ou il parle de d'autres choses que ça lui tente de parler, là. Et c'est spirituel. Et c'est pas tout le monde qui va saisir tous les points qui sont dits dans la classe. Et ça, ce n'est pas un défaut, c'est simplement des différents degrés de réalisation des personnes, simplement. C'est pas une critique, là. Parce que c'est comme ça.
Mais
les
non,
gens,
je...
Pardon? Pardon?
Non, je pensais que j'avais le son de couper, excuse-moi.
Non. Si tu veux dire quelque chose, c'est correct, là.
En fait, je parlais pour moi-même, je disais, mais c'est, et puis j'ai vu que le son n'était pas coupé, je disais, mais c'est le cas aussi pour ce cours-là, on est tous les trois, tous les quatre avec toi, mais c'est toi qui nous fais la classe, donc tu es quand même plus élevé spirituellement et plus connaissant, tu es notre Prabhu, mais tous les trois, on perçoit pas l'enseignement de la même façon, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est parce qu'on est tous différents, et on a tous un cheminement différent, une relation personnelle avec Krishna qui est différente.
Ouais, exactement. Alors, c'est ça. C'est comme, par exemple, on écoute une classe de Srila Prabhupada. Une classe de Srila Prabhupada, ou même lire, là, parce qu'on vient de lire ça aujourd'hui, là, un extrait de la Bhagavad Gita telle qu'elle est. On peut comprendre tout de suite. Prabhupada est à un niveau. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et on prend qu'est-ce qu'on est capable de prendre. selon notre compréhension, selon notre réalisation spirituelle. Et c'est même dit dans le Srimad Bhagavatam au tout début, quand le Srimad Bhagavatam va être récité par Sutta Goswami. Sutta Goswami, lui, ce n'est pas Sukadev Goswami. Parce que le Srimad Bhagavatam a été récité pour la première fois par qui? Sukadev Goswami. On t'entend pas, Madhavananda? Alors, par Sukadev, j'ai lu sur tes lèvres, là. T'as dit Sukadev, c'est correct. Alors, ça, c'est la première récitation du Srimad Bhagavatam. Mais Sutta Goswami était là, lui. Il l'a entendu, cette récitation-là. Et là, ça devient à son tour de réciter le Srimad Bhagavatam. Et Prabhupada explique, ça c'est merveilleux, et c'est très spécial, si on peut dire, là. J'essaie de trouver un mot vite, là. C'est spécial au point que, Prabhupada, j'ai lu ça là, tout dernièrement, Prabhupada dit, il y a 5000 ans, ou avant 5000 ans, la connaissance védique est une connaissance qu'on appelle Shruti. Shruti, c'est une connaissance qui est acquise par l'écoute. Alors, dans les temps anciens, les sages prononçaient donc des paroles, disons, par lesquelles ils véhiculent la connaissance, et les étudiants ou les disciples entendent ça une fois, et ils s'en rappellent pour le restant de leur vie. Ça, c'est comme ça que la connaissance védique a été transmise. Et Prabhupada dit, il n'y avait pas besoin d'écriture dans ces temps-là. Mais avec l'âge de Kali, Krishna est très gentil, savait que ça n'allait pas marcher comme ça parce que les gens n'ont pas une bonne mémoire dans l'âge de Kali. Alors, Krishna est présent, et même on dit qu'il est encore présent au moment où on se parle dans les Himalayas quelque part. Vyasadeva prépare des écrits pour le prochain Kali Yuga. Alors, c'est Vyasadeva, l'incarnation littéraire de Krishna, qui met en écriture la connaissance védique, et ça touche à tous les domaines. Alors, ça, c'est inconcevable, même pas imaginable. Il n'y a aucun homme qui va dire, ben, il y a un homme, soi-disant un homme, en quelque part, qui est capable d'écrire toutes sortes de connaissances pour l'humanité. Ils sont même pas capables d'imaginer ça, là, parce que c'est inconcevable. Alors, qu'est-ce qui est concevable pour eux autres, disons, Homo sapiens.
C'est quoi la question?
Qu'est-ce qui est concevable pour l'homme en général qu'on appelle Homo sapiens? Qu'est-ce qu'ils sont capables de concevoir?
Ceux qui ont passé avant eux, qui ont laissé comme écriture pour qu'ils comprennent et qu'on soit, qu'est-ce qui s'est passé pour évoluer dans le futur avec qu'est-ce qui s'est déjà passé là. C'est une continuité de quelqu'un qui continue.
Correct. Ils sont capables de concevoir qu'est-ce qu'eux-mêmes sont capables de concevoir. Ils ne sont pas capables de concevoir qu'est-ce qu'eux autres ne sont pas capables de concevoir. Comme par exemple, très pratique, très simple. La question qui est posée, est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? On a entendu ça je sais pas combien de fois durant notre vie. On a entendu ça quand on était à l'école primaire ou à l'école secondaire. Puis là, aujourd'hui, on entend ça encore. Puis la réponse est sensiblement toujours la même.
Eux, ils disent non, Mais alors que nous, on sait que oui.
D'accord. Mais même parmi ceux qui ne disent pas non, parce qu'il y en a des
Mais
savants qui disent, il se pourrait que.
tant qu'ils ne le voient pas avec leurs yeux matériels, en fait, ils ne conçoivent pas que c'est possible. Sauf qu'ils sont avec des yeux matériels, un mental matériel, qui voient que les choses, justement, comme disait Saint, je sais pas trop quoi, à tout ce que tu, il faut que je voie pour croire, en fait. Dans la Bible, il y a un saint comme ça qui a dit, ah, mais moi, c'est Saint Thomas, je crois. Et,
Ouais.
ah, t'es comme Saint Thomas, ah, ben, tu vois, parce que tu vois pas, tu crois pas. Ça, je l'ai entendu tellement de fois quand j'étais petite. Pas pour moi, hein, mais de gens qui répétaient ça. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que l'humain basique, l'homo sapiens, comme celui qui se considère comme étant un homo sapiens, lui, tant qu'il voit pas, il croit pas. Et c'est pour ça que la science, il déchiquette la nature matérielle comme ils le font là pour pouvoir, et plus ils rentrent dans l'infiniment petit, plus ils se rendent compte que c'est complexe et ça leur pète la tête parce que, ben, voilà, moi je suis chimiste de métier. Quand j'ai commencé à regarder les cristaux, les molécules, comment elles sont organisées, millimètres, enfin, c'est grandiose de regarder ces choses-là. Et quand on a les yeux du dévot, même néophyte, on se dit, mais oh, c'est Dieu, c'est magnifique. Mais eux, ils ne le voient pas comme une création divine, ils le voient comme quelque chose qu'il va falloir reproduire, essayer de copier, et c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils créent des pastèques sans graines. Ils créent des, parce que c'est meilleur de manger des pastèques sans graines, des melons d'eau sans graines. Mais Krishna, il a créé des melons d'eau avec des graines.
Oui, exactement.
C'est bête, c'est des exemples comme ça, on en a des milliers, des millions. Et quand
Ouais.
on est passé, comme moi, par l'étude et Ananda aussi, dans le domaine scientifique, où on est sans cesse obligé de se flageller, de se dire non, j'apprends ça parce qu'il faut que je le ressorte en examen, mais c'est des bêtises, quoi. C'est comme ça, c'est leur monde, il est comme ça, mais moi je crois pas en ça. Et c'est vraiment, et quand on commence à apprendre la connaissance, on se rend compte, eh bien, que sur des endroits où eux, ils estiment qu'il n'y a pas de vie, il y a de la vie sur le soleil, même la lune, etc. Mais c'est qu'ils n'ont pas les bons. Ils n'ont pas les bons translators, quoi. Ils n'ont pas les bons modules. Ils sont pas sur la bonne fréquence, comme dirait Madame Ananda, qui parle souvent de fréquence. Ils sont pas du tout sur la même fréquence que les dévots. Donc, ils voient pas du tout la même chose que les dévots.
Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
C'est une petite chose que, quand vous dites, au début, on parlait des prisonniers, les trois classes de prisonniers. À la première classe, le gars veut pas sortir, mais il y a toujours plus que la première classe, c'est la libération. Quand il se libère, il va à l'extérieur de la prison. Alors, ça, c'est le plus haut que la première classe.
Oui, on peut dire ça. Disons, les prisonniers de première classe peuvent être identifiés comme les brahmanas. Les brahmanas ou les intellectuels. Les intellectuels ont une certaine résilience par rapport aux aléas de l'existence matérielle. C'est comme s'ils sont capables de, disons, passer à travers. Mais ce n'est pas ça le véritable bonheur. Parce que si les impersonnalistes peuvent choir du Brahma-dûoti, que faut-il dire des autres entités vivantes qui sont déjà dans le cycle de la naissance et la mort? Comment est-ce que ces êtres-là ne sont pas libérés du cycle de la répétition des naissances et morts. Alors, ce que Krishna indique dans la Bhagavad Gita, c'est justement que le véritable bonheur est en dehors du cycle de la naissance et la mort. Et comme Krishna dit, pour celui qui est né, la mort est certaine, pour celui qui meurt, la naissance est certaine. Ça n'en finit plus. Et à chaque nouveau corps, tout est oublié de la vie précédente. C'est toujours à recommencer. Alors, la seule chose ne disparaît pas, c'est l'avancement spirituel qu'un être vivant fait. Alors, c'est pas tous les hommes qui sont pareils, là. Il y a des hommes qui sont vraiment pas loin si ce n'est pas dire aussi pire que des animaux, encore pire. Et il y en a d'autres, on peut dire qu'ils ont fait un certain progrès dans la vie. Et le progrès s'apprend avec aussi ce que la vie veut bien donner comme enseignement à une personne. Mais le progrès va vraiment plus vite et plus, on peut dire, plus concret quand c'est l'association avec un pur dévot de Krishna. Dans ce moment-là, ça passe à vraiment au niveau spirituel, au niveau de Brahman, comme on dit, le Brahman en tant qu'âme spirituelle. Et là, y a pas de comparaison. Alors, comme c'est dit aussi dans le Nectar de dévotion, Prabhupada qui explique que se fondre dans le Brahma Jyoti, ça pourrait être multiplié par des milliers de fois, mais ça ne se compare même pas à une goutte du service de dévotion. Alors le dévot le sait par instinct. S'il n'y a pas Krishna, oublie ça, il n'y a pas vraiment de bonheur là. Alors le dévot, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tenir, il veut garder contact avec Krishna. Alors comment le dévot fait ça? En chantant les saints noms de Krishna. Un dévot doit chanter tout le temps. Et comme Prabhupada dit, penser à Krishna et chanter avec Krishna, c'est la même chose. Un dévot, il se garde en contact avec Krishna en chantant les saints noms de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ça, c'est la recette du bonheur. Et comme Prabhupada disait, chantez Hare Krishna et soyez heureux. C'est ce que Prabhupada disait. Et ça semble tellement simple. Tellement simple. Et je disais cette semaine, le Seigneur Chaitanya, il mettait en pouvoir ses associés, ses dévots pour prêcher. Et le Seigneur Chaitanya a envoyé. Des fois, là, quand c'est expliqué, là, le Seigneur Chaitanya a prêché partout en Inde. Mais comment il a fait ça? Est-ce qu'il était personnel? Oui, le Seigneur Chaitanya est allé un peu pas mal, plusieurs endroits, mais le Seigneur Chaitanya envoyait des disciples, des dévots, des purs dévots, et même c'est dit dans Chaitanya Charitamrita, le Seigneur Chaitanya habitait leur corps. Alors, ces dévots-là avaient les symptômes extatiques, comme le Seigneur Chaitanya. Alors, ces dévots-là prêchaient, et ils ont libéré, par leur prédication, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes en Inde. Alors, Prabhupada explique qu'un dévot de Krishna ne peut pas prêcher la conscience de Krishna s'il n'est pas mis en pouvoir par Krishna ou le Seigneur Chaitanya. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Ça prend la grâce de Krishna, du Seigneur Chaitanya. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, un divertissement du Seigneur Chaitanya. Une fois, Seigneur Chaitanya était dans un temple. Il y avait beaucoup de dévots. Et un temple où il y avait la déité du Seigneur Jagannath. Et à un moment donné, Seigneur Chaitanya regarde. Puis là, un serviteur du Seigneur Chaitanya qui voit qu'une femme Seigneur Chaitanya était sannyasi à ce moment-là. Il y a une femme qui a monté, qui avait son pied sur l'épaule du Seigneur Chaitanya et qui contemplait. Elle était accrochée après la colonne, mais elle avait un pied sur l'épaule du Seigneur Chaitanya et elle contemplait le Seigneur Jagannath. Alors, le serviteur Seigneur Chaitanya, si ma mémoire est bonne, Swarup Damodar, quand il a vu ça, il a dit à la femme, « Hey, descends de là, descends de là. Qu'est-ce que tu fais là? T'es sur l'épaule du Seigneur Chaitanya, c'est Krishna lui-même, Seigneur Chaitanya. Qu'est-ce que tu fais là? » Et Seigneur Chaitanya a dit, « Non, non, laisse-la là. Le Seigneur Jagannath ne m'a pas donné le désir aussi ardent qu'elle est là de voir Seigneur Jagannath. Laisse-la faire. » Alors, c'est intéressant parce que la dévotion, elle vient de Krishna aussi. On a une certaine part de faire un effort, etc., mais c'est une bénédiction, la bhakti, le pur amour de Dieu, le pur amour de Krishna. Alors ça, c'est spécial. Ça, c'est dans le Chaitanya Charitamrita. Ce divertissement-là, c'est spécial, pas à peu près. Que quelqu'un qui monte, une femme qui met son, qui monte sur l'épaule du Seigneur Chaitanya, il faut le faire, hein? C'est vraiment spécial. Alors voilà. Il y a des trucs dans ça. Oui.
Mais cette femme-là, c'était pas n'importe qui pour avoir cette chance-là, là. C'est quand même, ça devait être quand même un des vœux très élevés, là, de...
Oui, c'est sûr, là, c'est pas n'importe qui, c'est pas Madame Joe Blow, là.
Ouais.
C'est une dévote bien avancée. Seigneur Chaitanya, il en fait pas de quoi. Seigneur Chaitanya, il savait c'est qui, là, cette dévote-là. Puis en même temps, Seigneur Chaitanya fait un divertissement de dire, regarde combien elle est avide de voir Seigneur Jagannath. Moi, j'ai même pas ça. Elle est là, ça. C'est super. Par la grâce, Seigneur Chaitanya, par la grâce de Jagannath, comme tel. S'il y a d'autres questions ou commentaires? OK, on va continuer. Ananda, s'il vous plaît.
Je peux pas lire, j'ai pas accès au document.
Ah, vous avez pas assez... Ah, OK. Bon, ben, Virginie, encore.
Désolée, Hare Krishna.
Ben, la page 9.
Voilà, page 9, je m'étais arrêtée.
J'étais arrêtée à la ligne 36.
OK. Le nectar de la dévotion soutient nos propos. En voici un extrait tiré du premier chapitre. Le bonheur de ne plus faire qu'un avec l'absolu. Srila Rupa Goswami explique que serait-il multiplié des millions de fois le Brahmananda, le bonheur qu'éprouve l'être à ne plus faire qu'un avec l'absolu, ne peut se mesurer fût-ce à une goutte du bonheur qui coule de l'océan du service de dévotion. Dans le Hari Bhakti Sudodaya, comblant de prières Sri Nishimadev, Prahlad Maharaj prononce ces mots. Si intense est le bonheur que j'éprouve en ta présence, ô Seigneur de l'univers, qu'un océan de félicité me submerge. En comparaison avec lui, le Brahmananda n'apparaît plus que comme l'eau dans l'empreinte du sabot d'une vache. Pareillement, Sridhara Swami précise dans le Bhavartha Dipika, son commentaire du Srimad Bhagavatam, l'âme fortunée qui nage dans l'océan de nectar issu de la dévotion qu'elle t'offre et savoure celui qui s'attache au récit de tes divertissements, ô Seigneur, connaît certes des extases qui éclipsent le bonheur engendré par l'exercice de la piété, l'accroissement des richesses, la satisfaction des sens et la libération.
Pour un tel bhakta établi au niveau spirituel, toute forme de bonheur autre que celui qu'apporte le service de dévotion n'a plus d'importance, n'a pas plus d'importance qu'un fétu de paille tramant dans la rue.
Ouais, merci beaucoup. Alors, ça ici, là, dans le dernier paragraphe, c'est dit ici, l'exercice de la piété, l'accroissement des richesses, la satisfaction des sens et la libération. Ça, c'est une traduction des mots sanskrits dharma, artha, kama, moksha. Dharma, ça veut dire les pratiques religieuses ou les activités de piété. Accroissement des richesses, c'est artha. Et satisfaction des sens, c'est quoi? Savez-vous?
Mais je le sais.
C'est un mot qui revient souvent, ça. Kama. Comme les matérialistes, quel genre de littérature védique qu'ils adorent, qu'ils souhaitent tous de lire?
Le Kama Sutra.
Le Kama Sutra.
Le
Kama Sutra. Ça, là, s'ils peuvent mettre la main là-dessus, là, ils vont être aux oiseaux. Dès l'instant qu'ils entendent parler, ah, le Kama Sutra, ça explique tout. Tout ce dont il faut savoir dans l'existence matérielle. Le Kama Sutra. Alors, Kama veut dire la gratification des sens. Et ensuite, Moksha, la libération. Alors c'est dit ici que le service de dévotion, ça c'est ça. Toute autre forme de bonheur n'a pas plus d'importance qu'un fétu de paille tramant dans la rue. Et ça demande la réalisation. Comme on a dit, là, c'est pas tous les dévots qui ont le même degré de réalisation. Mais avec le temps, tout le monde arrive au degré de réalisation qu'il devrait arriver pour s'élever justement au niveau spirituel. Ça, Krishna, il veut ça et il s'arrange pour que, à long terme, ça arrive à ses dévots. Alors, comme Krishna disait dans la Bhagavad Gita, c'est le principe même du bonheur ultime. Alors, Krishna, il connaît beaucoup plus que nous. Et il connaît exactement qu'est-ce qui va faire vraiment notre bonheur. Et il veut nous amener là. Alors, des fois, il a une façon indirecte de nous faire progresser au niveau où il veut qu'on soit. Alors là, le dévot va appeler ça des épreuves ou des difficultés, mais c'est les leçons de la vie. Alors les leçons de la vie, c'est comme j'ai des allumettes, puis j'essaye voir si le feu brûle. Alors je mets ma main au-dessus. Puis la stupidité, c'est de garder la main au-dessus. Et là, si tu n'arrives pas à comprendre que le feu brûle, là, tu as vraiment un problème parce que ta main, là, elle va te faire souffrir pendant longtemps. Si ta main a été brûlée, là, tu vas avoir de la difficulté. Mais en général, là, c'est pas long. C'est « Oh! Enlève sa main de là! Ça brûle! » Alors, c'est la même chose pour la vie matérielle. C'est qu'il y a des choses que tu devrais pas toucher, tu devrais pas voir, tu devrais pas sentir, tu devrais pas un paquet de choses. Alors, la vie spirituelle, comme on a dit il y a quelque temps, la vie spirituelle a deux volets. Il y a un volet, les choses qu'il ne faut pas faire, et l'autre volet, les choses qu'il faut accepter, même si ça ne fait pas plaisir au départ de les accepter. que normalement on n'aurait pas accepté, mais là, vu que on veut avancer spirituellement, on va les accepter. Et ça peut sous-entendre justement, c'est ça le tapasya. Le tapasya, c'est accepter volontairement une forme de souffrance, mais dans le but de progresser spirituellement parlant. C'est le tapasya. Alors, comme on a lu aujourd'hui, là, des fois, il y a des jours de jeûne, et ça fait partie, justement, du service de dévotion. On a lu ça aujourd'hui. Des fois, il y a des jours de jeûne, et c'est ça, voilà. C'est dit ici, à la page 9, ligne 22, chanter Hare Krishna, Maha Mantra, et d'observer les jours de jeûne commémorant les apparitions ou les disparitions de Krishna en ce monde, ainsi que celles de ses dévots. En se soumettant à de telles pratiques, on se détache entièrement de tout acte matériel. Celui qui peut ainsi pénétrer le Brahma Jyoti, entre parenthèses, ou les différents aspects du concept du Brahman, devient en qualité l'égal de Dieu, la personne suprême. Alors, devenir l'égal de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on devient Dieu? Ça veut dire qu'on devient complètement spiritualisé. Alors, Prabhupada donne l'exemple aussi. C'est comme la barre de fer qui est mise dans le feu. À force d'être dans le feu, elle devient rouge. Elle devient comme le feu. Alors, quand on engage ses sens au service de Krishna, notre corps se spiritualise. Alors, c'est pourquoi c'est dit, par exemple, que le corps des purs dévots de Krishna ne devrait pas être détruit, comme pour les gens ordinaires. C'est pour ça qu'ils préservent le corps, et le corps d'un saint, d'un vrai, véritable personne sainte, n'est pas détruit. Il est encore là. Alors c'est pourquoi en Inde, ils mettent le corps des personnes saintes, ils n'envoient pas au bûcher,
brûler,
ils les mettent en terre. Et c'est le cours des choses normales pour les personnes saintes, véritables. Alors, elles sont pas brûlées comme Monsieur Tout-le-Monde, là, Madame Tout-le-Monde. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste en parlant du brûlé, y a-t-il une raison pourquoi aux Indes, là, c'est un peu partout, là, qui brûlait les morts, et c'est-tu pour qu'ils se libèrent plus vite toutes les cellules vivantes dans le corps, ou y a-t-il une raison spécifique?
Moi, je pense que ça, c'est mon opinion personnelle. Je peux me tromper, là. J'ai jamais lu la raison pourquoi, mais je pense que c'est d'ordre très pratique. Tu sais, t'as un pays là avec 1 milliard de personnes, faut que tu fasses, des grands cimetières, puis il fait chaud en Inde en plus là. Et la tradition, c'est que il faut que ça se passe dans la même journée aussi. Ça c'est védique. La personne est décédée et il faut qu'elle soit brûlée la journée même. Et il y a une raison à ça. Ça, je l'ai lu dans les livres de Prabhupada. C'est pour montrer aux autres personnes qui restent après que voici la leçon, là. Je répète dans mes mots. La leçon, c'est que voyez ce pourquoi j'ai travaillé fort toute ma vie. Maintenant, elle est réduite en cendres. Ça aussi, c'est dans les livres de Prabhupada. Et par exemple, quelqu'un qui met beaucoup de temps à décorer son corps, c'est comparé à quoi dans les livres? dans les écrits védiques. Comparé à décorer un cadavre, c'est écrit en quelque part dans les livres. Alors, ça c'est pour amener le détachement. T'sais? Parce que justement, il y a deux choses qui se passent. On s'attache à Krishna et simultanément, on se détache du matériel. Et si on se détache du matériel, il doit avoir l'équivalent de l'autre côté que de s'attacher à Krishna, s'attacher à Dieu. Ou, si c'est dans le cas des impersonnalistes, c'est progresser vers le Brahman. Quelque chose comme ça. Tu sacrifies pas quelque chose pour rien en retour. C'est comme si nous, on pratique le Bhakti Yoga, si on n'a rien en retour, ça vaut quoi? Est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est stimulant? C'est quoi la réponse?
Il faut pas s'attendre à quelque chose avec le Bhakti Yoga. Il faut le faire par amour inconditionnel. Non, c'est le but.
Oui, ça c'est le but ultime. Mais quand on n'est pas arrivé au but ultime, qu'est-ce qu'on veut?
On veut plaire à Krishna, on fait n'importe quoi pour lui attirer l'attention.
Oui, mais même à ça, on veut quelque chose. On peut pas dire, moi je sers, mais je veux rien, rien, rien. Tu sais, je veux dire, je veux rien. C'est comme les matérialistes qui disent des autres matérialistes. Et moi, je veux rien savoir.
Mais c'est comme Prabhupada.
Pardon?
C'est comme Prabhupada qui avait dit que quand on fait un pas vers Krishna, lui, il en fait 10 vers nous.
Oui, ça c'est bien. Excellent.
Est-ce
qu'on veut des réalisations? Quand on lit les livres de Prabhupada, on étudie les livres de Prabhupada, où on écoute des classes. On veut quelque chose.
C'est clair, ouais.
On veut quelque chose. On n'est pas des cailloux, là.
On veut avoir la connaissance,
On n'est pas un on n'est pas impersonnel. On est des personnes, on est des âmes spirituelles. Tu sais? Comme Prabhupada donne un exemple, pas nécessairement associé à ce qu'on vient de dire tout de suite, là. Mais Prabhupada donne un exemple. Le parent ou un père et son enfant. Le père se dévoue. Le père va travailler pour gagner la vie. Pas juste sa vie à lui, mais la vie de ses dépendants, son épouse, ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il veut en retour?
Qu'on l'aime.
Il veut avoir des échanges avec les personnes aimées, les personnes bien aimées. Un enfant, par exemple, avec son père. Prabhupada donne un exemple, là. Une histoire. Prabhupada, il raconte ça, là. Un fait vécu. Il y avait une personne en Inde qui est allée voir comme le gouverneur conseiller, en tout cas, une personne très importante en Inde. Puis il a attendu toute la journée avant de pouvoir passer. Alors, le temps passe, les heures passent. Quelqu'un lui a dit, asseyez-vous, là. Attendez. Elle a attendu plusieurs heures. Et finalement, la porte s'est entrouverte un peu. Et il est allé voir qu'est-ce que l'autre fait dans la pièce. Et Prabhupada dit, il y avait un enfant qui était monté sur son dos à cheval. Il était monté à cheval sur son dos, puis le premier ministre ou quelqu'un très important est en train de jouer avec l'enfant, puis l'enfant est sur son dos. Alors, ça c'est un des bonheurs d'un père de famille, c'est que il veut avoir du plaisir avec ses enfants. Et les enfants ont leur propre façon, disons, inégalable, leur façon d'être enfant puis de donner plaisir sans même qu'ils veuillent. Disons, comme un adulte, je cherche à faire plaisir à, je vais faire ceci, cela. Les enfants n'ont pas besoin de faire ça. Pour eux autres, ça leur prend juste un sourire au visage, puis montrer qu'ils sont contents, puis s'amuser avec le parent en question, puis ça fait leur bonheur, et ça fait le bonheur des parents aussi. Alors, Krishna, lui, réciproque avec ses dévots. Il doit avoir une réciprocation des dévots avec Krishna. Alors, une réciprocation de Krishna avec les dévots au niveau pratique. Est-ce qu'il y en a?
Oui. La
Comme?
réciprocation de Krishna avec ses dévots. Ben, on a l'exemple de Arjuna avec la Bhagavad Gita.
D'accord.
C'est... Sinon, il y a
Disons,
peut-être...
laissons faire les purs dévots, là. Prenons les petits dévots que nous essayons d'être. Est-ce que Krishna nous donne, disons, du plaisir à tous les jours, immanquablement?
Ben oui, il suffit juste de regarder le service de dévotion en soi, c'est une source de plaisir. On chante, on danse, on discute, on mange du prasad. Donc ben
Ouais.
juste le servir, c'est une source de joie. Donc on le sent et plus on le sert et plus il nous donne d'opportunités de le servir. Donc plus on a une joie et c'est un cercle vertueux.
D'accord, tout ça c'est très bien, mais il y en a une réciprocation en particulier qui est pas piquée des vers, comme on dit, et qui surpasse pas mal et inconcevable, mais c'est tous les jours, même heure, même poste. Tous les jours. C'est lorsque les rideaux s'ouvrent au temple et qu'on voit les déités dans des nouveaux vêtements frais du jour et que Krishna a son sourire. Et
Ouais.
ce sourire-là, on peut jamais comment ça, s'en passer, si on peut dire. Il y a un autre mot, s'en lasser, c'est ça. On peut jamais s'en lasser, c'est le contraire qui arrive. C'est qu'on veut toujours garder souvenir du sourire de Krishna, des déités. Et ça, c'est tous les jours. Matin et soir, à n'importe quel moment de la journée, c'est comme le visage de Krishna, il est immobile, mais d'un autre côté, il est expressif de sa béatitude, de son éternité, le Satchit-Ananda, le Vigraha, il est là, dans la forme des déités. Et ça, c'est tous les jours. Krishna donne. Tu sais, les dévots le matin, là, mettons, n'importe quel temple, qu'est-ce qu'ils font, les dévots? Ils vont au Mangalarti. Mais après le Mangalarti, il y a une classe, mais il y a aussi le japa. Dépendant des temples, certains temples vont donner presque 2 heures aux dévots pour chanter leur tour. En général, c'est pas 2 heures, là. C'est 1 heure et quart, 1 heure et demie. Quelque chose comme ça. Mais les dévots, quand ils ont chanté leur tour, là, puis là, c'est marqué, c'est dans l'horaire du temple, c'est ouverture des rideaux c'est le darshan des déités. Et le mot darshan, ça veut dire quoi, darshan?
Regarder, avoir le plaisir de regarder le Seigneur quand les rideaux s'ouvrent.
Exactement, darshan. Mais Prabhupada, darshan veut dire voir. Alors, mais Prabhupada dit, darshan n'est applicable ne peut être appliqué qu'à Dieu, la personne suprême. Alors, si par exemple, le premier ministre de la province, le premier ministre du pays quelconque, là, il dit, ah, moi, j'offre le darshan. Les gens peuvent me regarder. C'est une, Prabhupada dit, les premiers ministres, ils sont louangés. Lorsqu'il y a des, c'est comme là, par exemple, Trump est parti en Chine, là. Il est revenu, là, j'imagine. En tout cas, visite officielle de gouvernement à gouvernement. Mais Prabhupada dit, ils font des louanges. Mais il n'y a personne qui les pense vraiment. C'est comme une certaine forme d'hypocrisie ou d'insulte de louanger quelqu'un qui, tu sais, tu penses pas vraiment que c'était en train de dire, là. Tu le fais par protocole. Mais pour les déités, ça marche pas comme ça, là. Et tu récites pas le protocole. Il n'y en a pas de protocole. Le seul protocole qu'il y ait, c'est ton cœur. Puis dans ton cœur, là, t'as intérêt à pas mettre de protocole. Parce que Krishna, il sait. Il voit tout dans ton cœur. Puis il sait que, hey, avec moi, là, c'est pas la peine de faire du protocole. C'est pas nécessaire. C'est juste de personne à personne. La seule différence, c'est lui, c'est la personne suprême. Puis l'autre, ben, c'est la personne individuelle qui a absolument besoin de la miséricorde du Seigneur pour exister. Que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel. Alors, c'est cette réciprocation de Krishna avec les âmes individuelles que les âmes individuelles recherchent, en fait. C'est ça le bonheur. En tant que dévot, en tant que âme spirituelle, c'est de sentir justement une réciprocation avec Krishna. Alors, comme par exemple, on a un beau mental qui ne demande qu'à être rempli. Prabhupada compare le mental à un pot d'encre. Lorsque le pot d'encre est rempli d'encre, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Mais le mental veut être rempli. Et le mental, c'est une pensée après l'autre. Alors, le mental devient satisfait, et ça, c'est le bonheur du dévot, quand le mental devient rempli de Krishna. Ou de voir les choses en rapport avec Krishna. Autrement, le mental lui va attraper n'importe quoi au vol. Et si ça n'a pas trait à Krishna, il y a une forme d'insatisfaction latente qui va s'installer, qui va être là. Alors, c'est pourquoi les gens, ils ont beau penser à toutes sortes de choses, ils ont beau s'acheter, par exemple, toutes sortes de choses pour se rendre heureux, mais s'il n'y a pas Krishna, à un moment donné, il y a un manque. Les gens ne seront pas satisfaits. La satisfaction, et même comme on dit aujourd'hui, même quitte à se fondre dans le Brahman, parce qu'il n'y a pas Krishna, ce n'est pas satisfaisant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
C'est juste que, qu'est-ce que vous venez de dire, que le mental est toujours quelque chose. C'est un peu qu'est-ce qui se passe avec l'intérieur.
On t'entend pas bien,
On
là.
n'est jamais satisfait. C'est que c'est un peu comme aujourd'hui avec l'Internet, on n'est jamais satisfait. On change toujours de page, tout ça, mais aussitôt qu'on tombe sur quelque chose pour la réalisation sur Krishna, là, la fréquence, ça baisse, c'est plus relax. On est bien, on sent comme quoi on a le tout devant nous. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On est satisfait.
Exactement. C'est comme Krishna dit que quand on va dans le monde spirituel, ben il n'y a personne qui revient de là. Comme Krishna dit, cherchez l'endroit d'où l'on ne revient pas. C'est ça qui est dit dans Bhagavad Gita. Alors Krishna n'a pas dit, cherchez Krishna Loka, cherchez tel Loka ou Vaikuntha Loka. Krishna ne dit pas ça. C'est comme s'il est en train de dire, soyez assez intelligent, là. Allez à cet endroit d'où vous n'aurez même pas besoin de revenir, vous allez vouloir rester là. Et Prabhupada donne l'exemple, par exemple, des astronautes qui vont sur la Lune. Mais à quoi ça sert, c'est Prabhupada qui dit ça, là, à quoi ça sert qu'ils aillent sur la Lune? Parce que, pour la simple raison, ils peuvent pas rester là. Alors, Prabhupada dit, si tu vas quelque part, ben, reste là. Mais tu peux pas rester là. Ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose, là. C'est inutile. Alors, Prabhupada dit, pour aller sur d'autres planètes, il y a une façon. Il y a plus qu'une façon. Là. Une façon, c'est par des moyens mécaniques. Et ça, bonne chance. Et puis, l'autre façon, c'est en adorant les demi-dieux, en faisant du worship des demi-dieux qui sont sur ces planètes-là. Ça va t'amener éventuellement, si tu veux, si c'est vraiment ça que tu veux, tu vas prendre naissance sur la planète X, Y, Z. Ça, c'est la façon la moins dispendieuse, mais ça vaut ce que ça vaut. Alors, et comme Krishna dit, ceux qui adorent les demi-dieux vont atteindre les demi-dieux. Ceux qui adorent les ancêtres vont atteindre les ancêtres. Mais ceux qui m'adorent, mes dévots, vont venir à moi. C'est ce que Krishna dit dans le Bhagavad Gita. Alors, chapitre 9, verset 25.
Oui, parce que si en fait on a des désirs matériels, Krishna va nous donner nos désirs matériels. Puisqu'il donne, mais si le dévot, justement, l'être s'éveille et lâche ses désirs matériels pour des désirs spirituels de se rapprocher de Krishna, de servir Krishna, bah, automatiquement, comme disait Ananda tout à l'heure, c'est multiplié par 10, c'est la réciproque. Donc, il y a un lien qui se crée, il y a un échange, il y a une intimité qui se crée. En fait, c'est cette intimité qu'il faut créer avec le Seigneur suprême, qui se crée naturellement, en fait. On cherche même pas à la créer. Ça se crée naturellement.
Exactement. Parce que Krishna, lui, il sait que dans le cœur de chaque être vivant, l'amour de Krishna est endormi.
Voilà.
Alors, il ne demande...
C'est l'éveil.
Justement, qu'il y ait cet éveil et qu'il y ait un progrès spirituel. Et la beauté, c'est que au début, il y a éveil, mais après, il y a progression. Et par exemple, si le dévot arrive au stade de bhava, l'extase, et qu'il n'a pas terminé pour arriver à la bhakti, le prema bhakti, dans sa prochaine vie, il va démarrer au stade de bhava et il va continuer jusqu'à temps qu'il atteigne prema bhakti, le pur amour pour Krishna. C'est la grâce de Krishna parce que Krishna satisfait les désirs de chacun et il donne, comme Krishna dit, je donne la connaissance, l'oubli et le souvenir. Alors, Prabhupada explique que quand un être vivant prend naissance, X, Y raison et X endroit, etc., c'est Krishna dans son cœur qui lui rappelle, il lui fait souvenir de qu'est-ce qu'il voulait dans sa vie antérieure. Sans que ça soit spécifique, noir sur blanc, là. Mais si quelqu'un, par exemple, voulait être un ingénieur dans une vie passée, ben, quand il va avoir la vie, Krishna va lui donner une vie dans laquelle il pourra devenir un ingénieur parce que c'est ça qu'il a désiré. Et Krishna il ne donne rien si l'être vivant n'a pas les qualifications pour. Il faut que l'être vivant se qualifie. Krishna va donner l'intelligence, etc. Et pour Krishna, c'est facile pour lui de faire ça. Mais c'est à nous d'être un peu plus intelligents, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de désirer. Ça vaut la peine ou ça vaut pas tellement la peine que ça? Puis ça, ben, c'est au contact des purs dévots de Krishna qu'on peut essayer de débroussailler nos désirs et puis d'aiguiller nos désirs plus vers Krishna que vers autre chose. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Non, c'était bien intéressant encore aujourd'hui. Merci, bravo.
Allez,
Merci
Krishna, ça me
beaucoup.
fait
Allez,
plaisir. Allez, allez,
oui.
bon.
Allez, allez, vous.
Alors,
Krishna.
on se reprend pour mercredi.
Oui. Allez,
Merci.
bon.
Allez, bon.
Allez,
Allez,
bon. Allez,
allez,
Krishna.
allez,
Allez, Krishna, bon
Krishna.
week-end à vous
Merci
tous.
beaucoup.
Ah.
Madame Ananda,
Jai.
il est parti.
Bon,
Je
d'accord.
vais
Krishna.
le contacter sur par je vais lui envoyer le lien pour le, je sais pas s'il a le site mantra.yoga, s'il connaît,
Ah,
parce
ça,
que
je sais pas, je peux pas dire.
voilà, je vais lui
Mais
envoyer le
c'est très bien fait là-bas en
c'est bien, hein,
passant.
tu as vu ça, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai commencé à, et c'est la même voix en fait, c'est la parce que ça fait des longtemps que j'avais vu le livre de Krishna sur YouTube. Mais là, c'est magnifique. Il y a même des clashs de Srila Prabhupada. C'est traduit. Il y a un travail, mais waouh!
Moi, je connais deux dévots en France et il y a, pour le petit peu que j'ai écouté là, quand je suis allé sur ce site-là, il y a un dévot qui lit, il s'appelle Adi Shekhar. Et je pense, lui, il s'est spécialisé là-dedans. Narayani m'avait dit, elle dit, t'as pas écouté Adi Shekhar? Il fait de la narration. Il a une belle voix, une voix assez grave. Et ça, c'est un dévot de Sankirtan, ce dévot-là. Il était Sankirtan leader en France dans les années 70. Un dévot très respecté, très reconnu en France et très déterminé. Un dévot influent en France et très, très bon. Un dévot excellent dans la distribution des livres. Là, lui, il était devenu un des meilleurs quand il a commencé. Un bon dévot, Adi Shekhar, puis un autre dévot, je me souviens plus de son nom,
Il y a une
mais
Mataji qui lit aussi, et c'est pas mal. C'est elle qui lit le livre de Krishna, et j'ai écouté, je sais plus ce que j'ai écouté hier soir. Parce que là, pareil, je pars avec, t'as une tablette, t'as tous les livres, t'as tout, c'est merveilleux, en fait.
Ouais, effectivement.
Donc je vais, comme Madame Ananda, je sais qu'il est isolé, on était en lien sur, j'ai ses coordonnées par Facebook. Parce que sur, comment ça s'appelle, Messenger, je crois, voilà. Quand on se connectait pour les classes qui étaient au temple, les classes sur la Bhakti Yoga, la Bhagavad Gita, pardon, que Prana faisait, on était sur le même groupe. J'ai ses coordonnées. Je vais lui envoyer le lien parce que
Ben ouais, je suis sûr qu'il va
ah
apprécier.
oui, il va apprécier. S'il connaît pas, peut-être, mais je pense que s'il connaissait, nous a, parce que franchement, depuis qu'on me l'a envoyé, il y a pas longtemps qu'on me l'a envoyé, ça, je le transmets à tous les toutes les personnes que je sais intéressées, même dans mon entourage, parce que c'est merveilleux, quoi. C'est
Ouais.
un beau travail qu'il faut relayer, parce que c'est triste des fois de voir, quand tu regardes sur YouTube, tu écoutes le livre de Krishna, chapitre 20, par exemple, et puis tu vois qu'il n'y a que 300 personnes qui l'ont écouté. Tu te dis, waouh, c'est quand même, alors qu'il y a beaucoup plus de dévots francophones qui seraient heureux d'avoir ce lien-là pour
Ah.
avoir accès à ça. Voilà, Prabhu, je te laisse tranquille. Allez,
Donc,
Krishna.
allez, Krishna, merci beaucoup.
Merci à toi, en tout cas.
Allez,
Et on
bonne
a bien
heure.
reçu les liens aussi pour récupérer l'enregistrement de la réunion. Tout ce que tu nous avais envoyé. Parce qu'on n'a pas fait de retour par mail pour te dire qu'on avait bien reçu, mais on a bien tout reçu.
OK. Mais
OK?
ça, ce YouTube-là, si vous le regardez étape par étape, l'information est là.
Oui.
C'est pas parfait, mais c'est se concentrer sur une, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et puis voilà.
Non, mais on va être 15 jours ensemble et moi je pars avec mon ordinateur. Donc, en fait, on prendra un temps pour regarder ensemble de nouveau toutes les deux et s'imprégner du truc. On sera en plus à côté, donc on pourra échanger plus facilement, prendre les supports que tu nous as envoyés pour un petit peu regarder, se mettre à jour sur les logiciels, etc. On va travailler ça et à notre retour, on va démarrer. OK?
D'accord, c'est
Allez,
bon.
Krishna. C'est la
Allez.
volonté de Krishna.
Ouais, c'est ça. Allez,
Allez,
Krishna.
bol.
Allez,
Allez,
bon.
Krishna. Allez, bol. À
Allez.
mercredi, Prabhu.
Ouais, un mercredi. Jai.
Ciao.
Allez, allez, bon.
Allez, allez,
Bon, jai.